poule vanille.
Je pense que j'aime bien la framboise. Je pense que je prends deux poules vanille.
Deux poules vanille.
Bonjour, c'est Morgane. Bienvenue dans Deux boules vanille. Deux boules vanille, c'est tous les jours de l'été à 17h et en rediffusion le lendemain à 8h. Une émission estivale qui laisse les coudées franches aux salariés et bénévoles de Canal B pour vous proposer des playlists à thème, des programmations de festivals, des reportages inédits et des rediffusions. Et de rediffusion, justement, il en sera question aujourd'hui avec deux documentaires réalisés par des étudiantes en Master 2 Journalisme, Reportage et Enquête à Sciences Po Rennes, soit deux épisodes de la série Désir et Désordre que vous retrouvez en intégralité sur le site de Canal B dans Émission spéciale. Ces deux épisodes parlent des femmes, et oui, et de leur choix, celui de ne pas avoir d'enfant, et de leur regret, celui d'être devenue mère. En 2005, Eliette Abécassis écrivait son roman « Un heureux événement » et osait s'attaquer au tabou de la maternité. Elle disait la vérité, du moins elle évoquait l'envers du décor, en dénonçant par là même les injonctions contradictoires faites aux femmes. Depuis, il en a fallu du temps pour que l'on exprime l'éventualité de séparer la femme de la mère. Juste la possibilité de penser et de dire qu'une femme n'est pas forcément une mère et que ce n'est pas grave, qu'elle fait bien ce qu'elle veut. Ni égoïsme, ni inconscience ici, ni demi-femme ou femme à demi épanouie. Non, rien de tout cela. Il s'agit juste d'un choix, celui de ne pas avoir d'enfant. Et quand on décide d'en avoir un, on a aussi le droit de le regretter.
T'as jamais eu envie d'avoir un enfant ?
Pour tout avoir.
Et puis tu me vois, moi, avoir un gosse avec la vie que je mène.
I think we're all having a baby.
Les enfants, un peu de silence. Vous attendrez maintenant la prochaine station essence. Fallait y penser avant.
C'est des enfants, quoi. Les enfants, c'est pénible.
J'ai des mamans, pas de papa.
D'où oui, tu veux sortir de là, c'est pas ta famille.
J'ai déjà deux mamans, ça me suffit.
Être ou ne pas être parent, ce choix semble simple, et pourtant, il ne l'est pas vraiment.
Celles et ceux qui ne veulent pas d'enfants ont du mal à faire accepter leur choix.
Les couples de lesbiennes et les femmes seules qui souhaitent en avoir sont confrontés à un véritable parcours du combattant.
Et à côté de ça, la vie de famille ne convient pas à tout le monde.
L'accès à la parentalité, à la stérilisation volontaire ou même à l'avortement reste difficile.
Et surtout, les lois n'évoluent pas au même rythme que les mentalités.
Difficile de disposer de son corps librement quand on fait partie d'une minorité de genre.
Entre le désir ou non d'enfant et les ordres qui imposent le schéma d'une famille traditionnelle, la parentalité, c'est toute une affaire.
Désir et désordre, une série documentaire de 5 épisodes réalisée par les étudiantes et étudiants du Master de Journalisme de Sciences Po Rennes.
Je veux pas d'enfant pour plusieurs raisons. Je pense parce que je veux me concentrer sur ma personne, parce que c'est un énorme investissement en soi d'avoir un enfant.
Moi, quand je vois les enfants autour de moi, je pense vraiment que c'est quelque chose que je voudrais pas avoir dans ma vie. J'ai vu beaucoup de gens qui ont vraiment eu des enfants alors qu'en fait, ils étaient pas du tout prêts, ils étaient vraiment... même peut-être ils en voulaient pas, ils en ont quand même eu. Et moi, je voudrais vraiment pas avoir ça... Dans le doute, je préférerais même ne pas en avoir du tout.
Dans le contexte dans lequel on est en ce moment dans le monde, c'est assez difficile de se projeter sur l'avenir et sur la qualité de l'avenir qu'on peut donner à nos enfants.
Je me pose la question parce qu'il y a tous les enjeux écologiques et d'un côté, y a aussi tout le côté physique de tout le corps qui se transforme et de toutes les hormones et tout, et flemme.
Aujourd'hui, la question n'est plus...
Tu veux combien d'enfants, toi ?
Mais plutôt...
T'en veux, toi, des enfants, plus tard ?
Et on peut plus facilement dire que non. On n'en veut pas. En septembre 2022, le magazine Elle publiait un rapport d'études réalisé par l'Institut français d'opinion publique. Il est inédit. 30% des femmes en âge de procréer ne souhaitent pas devenir mère.
Comme en témoignent les personnes interrogées dans les rues de Rennes, les raisons sont multiples. Être libre, pouvoir se consacrer entièrement à son travail, ne pas avoir les moyens financiers pour s'occuper d'un enfant, ne pas vouloir ajouter une vie sur une terre déjà bien remplie, ou encore faire un geste écologique. En France, le pourcentage d'individus sans enfants a longtemps été de 8%. Aujourd'hui, ce chiffre tournerait davantage autour des 13%. Une part significative est liée au fait que certaines personnes ne parviennent pas à procréer.
Et une part plus marginale est à accorder au child-free. Cette notion a été créée en 1972 par l'Organisation des non-parents aux États-Unis. En France, on parle aussi des sans-enfants volontaires, ou sans-vol, terme théorisé par la sociologue rennaise Charlotte de Best. Selon l'enquête réalisée par l'INED et l'INSERM en 2010, seuls 5% des Françaises et des Français et 3,5% des personnes en couple n'auraient volontairement pas d'enfants. Des chiffres certainement plus élevés aujourd'hui. Anne Gottman, sociologue de la famille, a consacré un livre entier au Child Free en 2017. Nous avons échangé avec elle par téléphone.
Allô ?
Oui, bonjour Madame Gottman ?
Oui.
Oui, bonjour Léna Guilleneuf, l'étudiante à Sciences Po Rennes.
Elle explique ce qu'elle appelle la volonté de ne pas engendrer par une raison souvent peu conscientisée par les Child Free.
Il y a des raisons que les personnes mettent en avant, il y a des raisons aussi, à mon avis, plus structurelle, si vous voulez. Je pense qu'il vaudrait mieux commencer par celle-là, à savoir que ne pas avoir d'enfant, la revendication d'une liberté de choix, si vous voulez, est en droite ligne avec la logique du marché, qui insiste donc sur la liberté de choix, et qui n'est pas la liberté en soi, c'est une liberté tout à fait conforme aux valeurs de la société marchande qui exige de satisfaire ses préférences.
Pour la sociologue, ne pas vouloir d'enfant relève d'un choix conforme à la société marchande dans laquelle nous vivons. Si une femme souhaite devenir mère, elle ne pourrait pas se dédier entièrement à son travail.
Pourquoi aussi c'est cohérent avec le fonctionnement d'une société de marché, c'est que la société de marché n'a que faire de ce qu'on appelle des handicaps relationnels, conjugaux, familiaux, je cite là Ulrich Beck, dans la mesure où le modèle du marché présuppose que la société soit exempte de famille et de couple. La logique du marché ne veut que des individus. Une femme qui risque, comme on dit, d'être enceinte, pour l'employeur, c'est pas bon. Une société où le conjugal prend du temps et prend de l'énergie et de la créativité, c'est pas bon. Donc ça, bien sûr, c'est une logique poussée à l'extrême, mais j'insiste pour qu'on voit bien le lien entre cette, entre guillemets, liberté de choix revendiquée par chacun d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant et la disponibilité réclamée par le modèle du marché.
Parce que la charge d'un enfant est surtout portée par les mères, la volonté de ne pas engendrer est essentiellement une revendication de femmes.
Ne pas avoir d'enfant pour une femme, c'est l'ultime libération, c'est l'ultime égalité entre hommes et femmes. L'égalité qui est revendiquée absolument comme partout et en tous sens, l'égalité homme-femme, si on la pousse à son extrême, eh bien c'est soit que les hommes aient des enfants aussi, et ça on y pense de plus en plus, soit que les femmes n'en aient pas.
Selon le baromètre Santé 2016 de l'INSERM, seuls 4,4% des Françaises ont choisi cette méthode définitive. En France, deux techniques sont utilisées pour stériliser les femmes. Le plus souvent, les gynécologues procèdent à une ligature des trompes par célioscopie. Ils réalisent deux trous au niveau du bas-ventre pour venir poser un clip sur les trompes ou les couper. Parfois, cet acte chirurgical, qui dure une vingtaine de minutes sous anesthésie générale, se fait par voie naturelle, en passant par l'utérus.
C'est à cette opération qu'a décidé de recourir Lola, 27 ans, que nous avons rencontrée chez elle à Lorient.
Hop, merci.
Je viens juste de rentrer du boulot.
Ok.
C'est juste une urgence, donc on va peut-être me rappeler.
Pas de problème.
On sera
tranquille. Ouais, y a pas de problème, t'inquiète pas.
En fait, c'est vraiment à mes 23 ans, en fait, suite à une rupture amoureuse où j'avais été plusieurs années en couple, que vraiment j'ai emménagé toute seule, j'ai commencé à faire ma vie toute seule, je me suis rendu compte que vraiment ça me plaisait. Et j'ai ma meilleure amie notamment qui a eu un enfant que j'adore, ça va super bien. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que tout simplement c'était pas fait pour moi et que j'avais vraiment aucun besoin, ce ressenti là où on m'avait dit tu verras, ça te prendra les tripes. Ben en fait, non, pas du tout. Vraiment mon adolescence et puis après jeune active, en fait, j'étais vraiment là. C'est pas le moment, j'en voulais pas, mais en fait, je savais même pas que je pouvais ne pas en avoir. Donc moi, c'était plus tard. En fait, c'est quand j'ai su que je pouvais choisir que là, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, j'en veux pas. En fait, c'est bon, mon choix, il est fait. Mais en fait, c'est parce qu'on m'avait pas dit que j'avais le choix, tout simplement. Je savais pas, en fait. Pour moi, c'est une femme avait des enfants, point. C'était même pas...
négociable.
Voilà, négociable.
Aucun professionnel de santé n'a parlé à Lola de la stérilisation. Elle s'est informée seule en lisant des témoignages sur les réseaux sociaux. Quand elle a décidé d'en parler à son médecin traitant, qui est aussi sa gynécologue, la réponse a été sans appel. Personne n'acceptera d'opérer une femme aussi jeune qu'elle sur la région de Lorient. Sans solution, Lola a pris les choses en main.
Donc après, moi je suis allée voir une sage-femme que je connaissais d'une amie pour en fait qu'elle me retire mon stérilet et lui demander également si elle connaissait quelqu'un. Donc elle ne connaissait personne, elle a également bien voulu me faire un courrier en me disant que sur la région lorientaise, personne n'allait m'opérer. Donc voilà, donc moi j'ai appelé l'hôpital de Lorient, Quimperlé, et en fait j'ai eu que des refus, et j'ai eu des secrétaires vraiment mal aimables.
Et quand tu dis que des refus, du coup, est-ce que t'as rencontré des médecins ou
ah non,
pas ?
Non, en fait j'ai été stoppée au secrétariat des hôpitaux, j'ai été stoppée et j'ai même pas pu avoir de rendez-vous, parce que 26 ans c'est beaucoup trop jeune pour savoir ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on veut faire de son corps, etc. Et du coup je n'ai rencontré aucun chirurgien, aucun gynécologue qui opérait sur la région de Lorient, de Quimperlé ou de Quimper. Du coup, j'en ai eu marre et je suis pas très patiente. Donc, j'ai pris une liste qu'on trouve sur Instagram avec des professionnels qui acceptent d'opérer les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants ou autres. Et du coup, ça m'a amenée jusqu'à Rennes. Quand j'ai appelé le secrétariat du gynécologue de Rennes, j'étais vraiment au bout de ma vie. Hein. Enfin, je crois que j'étais en pleurs en leur demandant, en priant pour avoir un rendez-vous. Je leur ai expliqué que j'arrêtais pas d'appeler les hôpitaux des alentours et qu'ils me donnaient pas de rendez-vous. En fait, je crois que j'étais tellement à bout que la pauvre secrétaire s'est dit « Ok, on va lui mettre un rendez-vous !» We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition and how much is art really worth. Everything you're best at is the thing that hurts the most. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find.
Il faut savoir qu'en France, la stérilisation à visée contraceptive est autorisée par une loi. La loi du 4 juillet 2001 qui pose deux conditions. Être majeur et respecter un délai de 4 mois de réflexion après la première consultation. Mais en réalité, l'accès à la stérilisation est bien plus compliqué. Les médecins imposent souvent à leurs patients d'autres conditions. Un délai de réflexion plus long, de 4 à 6 mois par exemple, comme pour Lola, ou être déjà parent.
Bonjour, docteur Pierreux, c'est moi que vous attendez ?
Oui, tout à fait.
Merci. Désolée, je vous ai fait attendre.
Non, mais il n'y a pas de problème.
À la clinique de la Sagesse, à Rennes, des gynécologues pratiquent des stérilisations. Flavie Quéreux est l'une d'elles. Depuis une dizaine d'années, elle constate une augmentation des demandes, y compris de la part de jeunes femmes. Cette évolution la questionne.
Normalement, dans la loi, il n'y a pas de question d'âge ou de... Après, on peut toujours mettre une clause sur le fait que ça nous pose souci. Mais il n'y a pas de question d'âge, normalement.
Et du coup, est-ce que justement, vous traitez de la même façon des patientes avec enfants et des patientes sans enfants ?
Oui, un petit peu.
petit peu.
Bah, c'est sûr que 22 ans, pas d'enfant, je serais plus embêtée que s'il n'y a pas d'enfant, que quelqu'un de 33 ans qui n'en a jamais voulu. 22 ans, il faut que je les connaisse. Et pour coup, celle-là, je veux toujours au moins les voir deux ou trois fois. Et après, nous, notre question, c'est toujours s'il y a d'autres moyens de contraception qui marchent bien, typiquement le stérilet, pourquoi aller s'imposer une chirurgie si ça se passe pas bien. C'est pour ça, après, on est réticents. Je pense que je suis pas hyper réticente, mais je suis pas encore hyper d'accord pour faire toutes les dames à 20 ans. Parce que moi, je trouve pas anodin de stériliser à 22 ans quelqu'un. Je la connais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Enfin, il y a des trucs aussi qui ont pu être moches dans sa vie. Et finalement, elle va tomber sur quelqu'un de très bien à 27 ans. Et puis, je les connais pas, les gens. Et à 20 ans, on n'a pas une maturité. Enfin, je parle pour moi, on n'a pas la même maturité qu'à 30. C'est pour ça que 30 ans, vraiment, ça me pose pas de soucis. J'attends pas 35 ans. C'est vrai que typiquement 23 ans, on veut pas d'enfants, je les vois pas forcément. Il y en a, c'est un parcours du combattant, c'est clair. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres, bah, elles ont eu un rendez-vous, je les ai vues, et ça n'a pas posé de soucis.
Le docteur Quéreux justifie son comportement par la crainte que ses patientes regrettent leur décision. En réalité, cette situation ne lui est arrivée qu'une fois, avec une femme qui était déjà mère.
Elle avait déjà des enfants, elle a demandé une ligature, tout était dans les clous. Un an après, elle a changé d'avis, elle a voulu une déligature, et là je l'ai confié à un collègue. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a vraiment embêtée. Parce que je trouve que tout avait été fait. En plus, on accède à sa demande. En plus, finalement, ça fait de la PMA. La société paye de la PMA pour une dame qui, à la base, a dit qu'elle ne voulait plus.
Être parent reste la norme. L'injonction à devenir mère est toujours très présente. Si la pression est moindre pour les hommes, elle existe aussi. Comme en témoigne le docteur El Akri, jeune urologue au centre hospitalier universitaire de Pontchaillou.
Pour la radio, c'est ça ?
Oui, c'est tout à fait ça.
Ouais. Alors, je sais que c'est pas le cas de tous mes collègues, mais moi, je dis la même chose à tout le monde. Si le patient, qu'il ait 25 ou 40 ans, qu'il ait des enfants ou pas, s'il veut une vasectomie, je lui expose tout le principe de l'intervention, les risques, le caractère définitif, si on fait rien par la suite. Et voilà, de toute façon, c'est médico-légal. Si le patient, il a signé les deux consentements et qu'il a bien lu la fiche d'information sur l'intervention, pour moi, je ne fais pas de différence de traitement entre les deux. Mais je sais que j'ai d'autres collègues hein, qui peuvent avoir des scrupules à aller vasectomiser un patient de 20 ans. C'est une histoire de conviction ou de croyance. Mais si le patient, il n'a pas de... Voilà, cognitivement ou psychologiquement, il me paraît stable et qu'il signe bien les consentements, pour moi, il n'y a pas de problème.
Au-delà de la question de l'âge, c'est le déséquilibre entre contraception féminine et masculine au sein des couples hétérosexuels qui gêne le docteur Quéreux. Alors que la ligature des trompes présente plus de risques, elle est plus pratiquée que la vasectomie. Cette opération consiste chez les hommes à couper et bloquer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules. Faute de chiffres plus récents, en 2013, à peine 1% des hommes français avaient fait le choix de la vasectomie, selon une étude des Nations Unies. Dans cette même étude, au Royaume-Uni, ils étaient 21% à y avoir recouru et 11% aux États-Unis.
Pour le docteur El Akri, cette différence et cette non-promotion de la vasectomie en France s'expliquent en partie par la formation qu'il a reçue et qui évoque très peu la contraception masculine.
À la fac, ouais, si je me souviens bien, les cours qu'on avait sur la contraception, ça traitait quasiment exclusivement de la contraception féminine. Bon, ça fait quand même quelques années, mais on nous parlait des différents types de pilules œstroprogestatives, etc. Donc finalement, moi, la vasectomie, j'en avais une image un peu floue jusqu'à commencer mon internat d'urologie. Et finalement, j'ai vu que il y avait de plus en plus de demandes ces dernières années. Et puis, globalement, ça se passe très bien, les patients sont satisfaits. Puis je vois qu'il y a du bouche à oreille et... c'est quand même, on va dire que c'est entre guillemets en vogue, quoi.
Selon les chiffres de l'assurance maladie, en 2021, le nombre de vasectomies remboursées en France est passé de 1908 en 2010 à 23 306 en 2021. Le docteur El Akri estime que les patients sont mieux informés des conséquences réelles de l'opération. Malgré tout, la part d'hommes sans enfants procédant à une stérilisation reste très faible.
Je pense que les gens se rendent compte que avec la vasectomie, des effets secondaires, il n'y en a pas. Et il y avait peut-être aussi des fausses idées reçues, je pense. On se dit, on va me couper un truc au niveau des testicules. Et finalement, quand on y réfléchit, on n'a pas de problème d'érection, on a toujours ses éjaculations, on n'a pas de problème de libido ni d'orgasme. Donc finalement, l'effet, finalement, on ne le voit pas à l'œil nu, quoi. C'est juste qu'on est, on est stérile, mais de façon voulue, quoi.
Lucas, 28 ans et commerçant à la Nestère, en était avisé lorsqu'il a envisagé la vasectomie il y a 2 ans. Son choix de ne pas devenir père, il l'a mûrement réfléchi. il ne conçoit pas d'élever un enfant en vue de la situation écologique.
Dans quel monde on va, dans quel mur on va, qu'est-ce qu'on va vivre? Donc j'ai suffisamment préoccupé de moi en tant qu'individu pour pas avoir à m'occuper aussi d'un autre individu qui serait un enfant.
Mais comme pour Lola, il a fallu s'armer de patience. L'urologue de Lucas lui a imposé de congeler son sperme et surtout de consulter un psychologue. Deux conditions qui ne sont pas inscrites dans la loi. Il nous raconte les jugements auxquels il a fait face.
La toute première chose qu'elle m'a dit quand je lui ai dit pourquoi j'étais là, elle m'a regardé et elle m'a dit qu'elle n'était pas spécialiste pour les trans. En fait, je vois pas le rapport, quoi. Donc déjà, avoir un professionnel de santé qui est dans le psy, dans la psychologie ou dans la psychiatrie, qui arrive à faire cet amalgame-là, ça commence mal, quoi. Et j'avais un autre rendez-vous la semaine d'après, avec un homme cette fois. La toute première chose qu'il m'a dit, ce psychiatre-là, c'est que, et là c'était un psychiatre, c'était pas un psychologue, il m'a dit que lui, à titre perso, n'était pas pour. Puis, encore une fois, dans ma tête, il m'a dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu sois pour ou que tu sois contre, en fait? Je suis pas là pour débattre du pour ou du contre de la stérilisation définitive sur des personnes sans enfants, enfin, clairement pas. A careless woman, she played too rough, she laughed too loud, she talked too much, too much, too much, she just too much. I wanna be her when I grow up, I wanna be her when I grow up.
Dans les imaginaires collectifs, la parentalité reste un critère de réussite et d'épanouissement. Avec l'Irlande, l'Hexagone est le pays à la plus forte fécondité d'Europe. Son histoire, ses politiques et ses infrastructures sont telles qu'avoir des enfants en France reste la norme.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, il y a, certains disent, une pression sociale forte pour que les femmes aient des enfants, et que, parce qu'on est un pays où globalement beaucoup de femmes travaillent, pour qu'elles réussissent à concilier activité professionnelle et maternité.
Jean-Luc Richard, maître de conférences en démographie et en sociologie politique à Rennes 1.
Et puis donc il y a cette tradition des femmes qui concilient travail et parentalité et maternité en France qui est quand même assez marquée. Hein. Beaucoup de femmes françaises ayant fait des études supérieures s'affirment très fières de concilier une réussite professionnelle et le fait d'avoir des enfants. En Allemagne, il y a 25% des femmes diplômées de l'enseignement supérieur qui n'ont pas d'enfants. Alors qu'en France, on a toujours cette courbe de la fécondité qui est que ce sont les femmes les plus riches, les plus diplômées et les femmes les moins diplômées et les aux revenus les plus modestes qui ont le plus d'enfants. Ça doit être lié à un imaginaire de la femme symbole de la République, un reste de tradition catholique dans le pays. Certains parlent parfois de tradition catholique zombie, vous savez, les sociologues comme, ou démographes comme Hervé Le Braz ou Emmanuel Todd. Il y a sans doute un reste de cela. En Bretagne, c'est indiscutable. Il ne faut pas perdre de vue qu'en Bretagne, par exemple, dans des départements comme le Finistère, les Côtes d'Armor, on était encore à 4,9 enfants par femme il y a un peu plus d'un siècle, hein, alors que dans des départements du sud-ouest comme la Gironde, on était à 2,2.
Un imaginaire que le sociologue relie aux politiques natalistes françaises des années 50. Ces dispositifs, toujours en place aujourd'hui, incitent les femmes à avoir plusieurs enfants.
Historiquement, la France a créé, à la Libération, un système d'allocation familiale, qui a quelque part encore aujourd'hui comme originalité, qui est qu'on aide les familles à avoir un deuxième enfant, hein, puisque les allocations familiales pour premier enfant, c'est zéro. Et dans la fonction publique, les fonctionnaires qui ont un enfant entre 0 et 20 ans touchent royalement, je crois, 2,29 € par mois. Hein. Alors que si c'est deux enfants, c'est 130 € qui s'ajoutent aux allocations familiales. Historiquement, les allocations familiales en France, elles permettent de relever l'indice conjoncturel de fécondité, l'indice de fécondité, de 0,1 enfant par femme. Ça augmente la fécondité de 5%. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 1,8 enfants par femme, on est actuellement, si on prend les descendances finales, on est à 2 enfants par femme. On est un des rares pays d'Europe où la population augmente. Tous les ans, elle augmente entre 100 000 et 200 000 personnes par an.
Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs.
Cette situation contribue à marginaliser les personnes sans enfants, parfois incomprises par la société, comme l'explique la sociologue de la famille Anne Gottman.
Si elles souffrent, c'est ce qu'elles affichent, un manque de considération et un besoin de reconnaissance. Hein, c'est-à-dire que, et pour employer un gros mot, elles sont stigmatisées. Il est vrai qu'il y a une question qui revient souvent dans la société quand on se dans une réunion, dans un dîner ou la question vient souvent à un moment ou à un autre. Avez-vous des enfants ? Face à cette question, les femmes sans enfants sont mal à l'aise car elles se doivent de répondre pourquoi. Disons qu'elles se sentent obligées de répondre pourquoi. Et c'est vrai que cette question, même si elle n'est pas exprimée, elle est dans l'air, disons. Et d'ailleurs, cette question est plus, si j'ose dire, pernicieuse pour une femme que pour un homme. Si on demande à un homme, vous n'avez pas d'enfant, non, bon, on ne va pas forcément plus loin. Pour une femme, il y a une espèce de chose qui traîne, comme ça, qui est une... que les femmes ressentent comme une sommation implicite à s'expliquer.
C'est pour cette raison que Lola n'a fait le choix d'en parler qu'à son cercle le plus restreint. Son père, duquel elle n'est pas très proche, et ses grands-parents ne sont pas au courant de sa décision de se faire stériliser. Elle ne souhaitait pas débattre de son choix.
Bah, en fait, mes amis, moi je me suis jamais cachée, alors mes amis proches évidemment, qu'en fait je voulais pas d'enfants. Et vraiment, mais j'en parlais assez souvent, etc. Et puis je commençais à avoir des amis qui avaient des enfants, wow, donc c'était assez naturel. Et ma famille, j'en parlais, et ma mère justement, parce que je suis très proche de ma mère, je lui disais que je voulais pas d'enfants. Mais je pense qu'au début, elle a vraiment cru que c'était passager, que je disais ça parce que j'avais pas de copains, etc. Et par contre, le jour où je lui ai annoncé que ça y est, j'allais me faire stériliser, en plus, en fait, je lui en avais jamais parlé avant, donc je lui ai annoncé ça vraiment du jour au lendemain. Et bon, en fait, elle s'est mise à pleurer. Enfin, ça allait pas du tout, parce que elle disait mais que, enfin, elle pensait que j'allais regretter, etc. Qu'en plus après, je pourrais jamais plus avoir d'enfant. Donc ça a été très dur. Mais vraiment, j'ai eu vraiment de la chance parce que mon entourage, en fait, me connaissait. Et du coup, c'était normal, en fait. C'était vraiment pas quelque chose comme ça que je disais sur un coup de tête. Et justement, en fait, les personnes qui le disent, souvent, c'est extrêmement réfléchi. Et même, je trouve que des fois, le fait de ne pas vouloir d'enfant, on se questionne beaucoup plus que sur le fait d'en vouloir, en fait.
D'autant qu'aujourd'hui, la barre des 8 milliards d'êtres humains sur Terre a été franchie. La croissance démographique, le réchauffement climatique, la logique du marché sont autant de raisons qui laissent supposer que les child-free seront de plus en plus nombreux. Anne Gottman insiste également sur les avancées scientifiques qui donnent aujourd'hui une plus grande liberté quant au souhait de devenir parent.
La procréation a assisté, enfin sous toutes les formes qu'elle peut prendre aujourd'hui, fait de la décision d'avoir un enfant justement une décision est extrêmement rationalisée. Il y a cet aspect-là, la planification. L'enfant est planifié. On va l'avoir à tel moment plutôt qu'à tel autre, etc., etc. Et du coup, l'enfant qui arrive... Au siècle passé, on aurait dit l'enfant que Dieu vous donne. Bon. L'enfant qui arrive, on ne pense plus comme ça. C'est l'enfant qu'on choisit, qu'on programme. Et donc, avoir un enfant, c'est une décision contrôlée. Évidemment, la contraception a beaucoup joué. Et donc, qui dit contrôle, dit option. Option d'en avoir et de ne pas en avoir.
Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'interrogent sur le fait de devenir parents. Dans les médias, des voix commencent à se faire entendre pour faire accepter ce choix et revendiquer cette liberté de disposer de son corps. Des voix qui doivent encore affronter des jugements et des refus. Des voix qui bousculent les traditions.
C'était Child Free Forever, un épisode de la série Désir et désordre, réalisé par Léna Guilleneuf et Lucille de Rolez.
La musique qui a accompagné cet épisode était Nimande du duo Compromat. Vous avez aussi pu entendre Faux Féministes de Peach Club, King de Florence and the Machine,
Careless Woman de Tanmi Nelson et Une sorcière comme les autres d'Anne Sylvestre.
Musique dans De Boule Vanille sur Canal B. On écoute Cette circonstance, Petra à pied de biche, bébé. Bébé sur Canal B dans Deux Boules Vanille.
J'aurais préféré regretter de ne pas avoir d'enfant plutôt que de regretter d'en avoir eu un.
Et à se demander même des fois si j'étais capable d'éprouver des sentiments ou des choses comme ça. En fait, c'était une grosse remise en question de mes capacités affectives.
En s'intéressant aux regrets maternels, on a eu l'impression toutes les deux de s'aventurer sur un terrain qui a été longtemps ignoré par notre société. Sous prétexte que nous sommes des femmes, ça devrait être une évidence de rêver de maternité. Il est encore difficile d'accepter que ce n'est pas nécessairement LA suite logique, notre désir le plus profond qui créera ensuite ce bonheur inébranlable. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas forcément tout attirés par le fait de devenir mère. Ça ne convient pas à toutes les femmes, ce truc-là. Il est grand temps de mettre à jour cette facette de la maternité qui a été laissée passer sous silence. Mais est-ce quelque chose qu'on peut savoir avant de l'avoir expérimenté? Vaut-il mieux vivre avec des regrets que des remords? Pour les deux mères que nous avons rencontrées, c'est une évidence. C'est le remords qu'elles auraient choisi.
En 2021, la journaliste Stéphanie Thomas publie le livre « Mal de mère ». Elle raconte avoir revêtu, en quelque sorte, les habits d'un archéologue qui s'attaquerait à une nouvelle zone de fouille, entre appréhension de ce qu'elle risque d'y découvrir et respect des lieux. Dans ce livre, elle donne la parole à 10 femmes qui brisent le tabou du regret maternel. Nous avons discuté avec elles pour mieux comprendre ce qui peut relier ces femmes entre elles.
En fait, il faut vraiment pas oublier que ces mères, elles aiment pas leur rôle et c'est un rôle qu'on demande à la femme de remplir et que t'es pas obligée d'aimer tout ce qu'on te demande de faire dans la vie. Mais elles aiment leurs enfants, il faut vraiment dissocier les deux, quoi. Et c'est des femmes qui, au moment où elles deviennent mères, elles ont l'impression de n'être plus que mère, de n'être plus que ça. Et ça les bouffe.
Il y a de celles qui rêvaient d'autre chose que de devenir mère, qui ne sont pas faites pour ça, même si elles le font très bien. Pour ces deux femmes qui nous ont partagé leur expérience de maternité, c'est bien ce rôle qu'elles remettent en cause qui ne leur procure pas le bonheur dont on entend parler à tout va. Ce rôle qu'elles auraient souhaité ne jamais avoir à endosser. Laurence est infirmière. Elle a 31 ans et son fils va avoir 4 ans. C'est suite à la pression familiale qu'elle et son conjoint se sont laissés convaincre d'avoir un enfant. Dès sa grossesse, elle a su. La maternité n'est pas faite pour elle. Si elle pouvait revenir en arrière, elle ne tomberait pas enceinte.
Je reste convaincue que c'est pas fait pour moi, en fait, parce que j'y prends toujours pas grand plaisir, en fait. Ouais, c'est toujours pas quelque chose qui me plaît, qui m'épanouit. Les moments câlins, ça m'intéressait pas plus que ça. En tout cas, ça m'apportait rien. J'avais des câlins avec mon fils pour lui, en fait. Mais moi, je ressentais rien.
Pour Aurélie, qui a 42 ans, le contexte est différent. Du plus loin qu'elle se souvienne, elle a toujours voulu devenir mère. C'était comme une continuité pour elle. Malgré les problèmes de santé qui ont accompagné sa grossesse, elle la vivait pleinement, dans l'attente de l'heureux événement. Mais lorsqu'elle nous parle du quotidien qui accompagne ensuite la parentalité, pour elle non plus, ce n'était pas une partie de plaisir.
C'était des corvées à faire. On va faire comme ça, après on va faire le bain, après on va faire le bib, après on va faire comme ça. Donc voilà, c'est des tâches à effectuer et c'est pas du plaisir. T'as une différence entre te sentir fatiguée et un peu blouseuse et subir ton bébé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et avoir envie de pleurer tout le temps, tout le temps. J'ai très clairement un souvenir en tête. Vous voyez mon grand faire de la trottinette. Et je m'ennuyais à mourir. J'étais dehors, il faisait la trottinette, il était là, maman, regarde. Et je trouvais ça terriblement ennuyeux, et j'étais là, mais... Oh! Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, mais je suis horrible, je suis avec mon fils, j'attends mon deuxième, et je suis en train de me dire que je me fais chier, pardon. Mais vraiment, j'ai ressenti un ennui et envie de le laisser, et de poser mon ventre et de me barrer.
Ce qui est censé procurer aux femmes ce sentiment d'accomplissement, de plénitude, eh bien ce n'est clairement pas comme ça qu'elles l'ont vécu. Stéphanie Thomas explique dans son livre que lorsque l'autre soi vient au monde, il provoque en quelque sorte la mort de la personne que ces femmes étaient avant. Telle une espèce de séisme identitaire, comme si elle ne s'appartenait plus derrière. C'est ce que Laurence ressent depuis la grossesse.
C'est comme si on avait fermé tout un bouquin de la vie d'avant et qu'il fallait en ouvrir un autre. Et avec, par contre, comme rôle principal, quelque chose qui nous plaît pas du tout, en fait. Dans lequel on ne retrouve pas l'étincelle qu'il y avait dans le bouquin d'avant. Ça a commencé dès la grossesse où justement le fait d'être tout le temps choyée, protégée, le fait que j'ai dû être arrêtée de bonne heure parce que j'étais quand même très malade et que du coup, vu qu'on travaillait en 12 heures, c'était compliqué. Le fait de perdre son travail, de plus avoir vraiment, parce que c'est quelque chose qui me passionne, donc le fait de plus avoir ça, on a la nausée tout le temps et qu'on est tout le temps hyper fatigué et en fait on passe ses journées à dormir, j'avais perdu ce que j'étais avant. Je faisais quand même du sport assez régulièrement dans la semaine, j'étais assez vivante. J'avais mon petit train de vie et en fait, tout s'est retrouvé complètement à l'arrêt.
Ce sentiment de ne plus être soi ou plus qu'une mère, c'est à partir de sa deuxième grossesse qu'Aurélie le vit. Pour celle-ci, elle s'était laissée convaincre par son ex-conjoint qui ne voulait pas d'enfant unique. Tout comme la dernière, elle l'a vécu comme sacrificielle.
J'avais vraiment l'impression d'être un porte-bagage, quoi. Ça m'a fait cet effet-là, les deux autres. Fallait subir ces 9 mois, voir son corps encore se modifier et encore être observé. Et puis aussi avec cette impression que quand t'es enceinte, on ne parle que de ça, quoi. Tu n'es plus qu'une femme enceinte et tu n'as rien d'autre à dire que ça. On te pose des questions que sur ta matrice, en fait. Tu es un ventre. Quand tu commences à réaliser que tu peux plus faire ce que tu veux quand tu veux. Et que, aux yeux de plein de gens, t'es devenue une maman. Et qu'on te le répète, et puis que t'as ton corps qui a changé, donc déjà t'es plus une femme, t'es une femme et une maman. Y a tout ça. Après, tout ce pan aussi de la sexualité qui change et qui est complètement bouleversé. Parce que ton corps est plus du tout comme avant, parce que t'as pris 20 kilos, parce que on t'a pas dit aussi que t'allais perdre du sang pendant 3 semaines, 4 semaines, et que c'était long tout ça à se remettre. Et du coup, ouais, t'as vraiment la sensation déjà que ton corps t'appartient plus. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait ça. Plus après, toutes les étapes de rééducation et tout, enfin, Il y a un moment donné où on a envie de dire, mais j'ai plus envie d'écarter les jambes. Ça suffit, j'en ai marre qu'on me reluque de tous les côtés. Je veux passer à autre chose et je veux retrouver mon corps d'avant et que ça s'arrête tout ça. Et du coup, là, ça a commencé à, effectivement, à, j'ai commencé à me dire, mais c'est plus mon corps. Et j'avais l'impression, avec cette dépression en plus, de me flétrir comme une fleur qui se fane en fait, et de n'être qu'une maman. Et ce fait-là me plaisait pas du tout. J'étais plus Aurélie, j'étais plus aussi gay qu'avant et enthousiaste et optimiste. J'étais là pour m'occuper de mon fils.
Toutes les deux, elles se sentent désormais mères avant d'être femmes. Cette femme qui n'existe plus et qu'elles regrettent. Parce que faire un enfant, ça implique aussi de ne plus vivre sa vie telle qu'on l'entend. Avec ce sentiment d'être piégée et l'impression de ne plus avoir de temps pour soi.
Et c'est des bloqueurs de liberté, quoi. C'est-à-dire que si j'avais envie d'aller faire un voyage, bah ça devient tout de suite plus compliqué. Si je veux démissionner de mon boulot parce que ça me saoule, bah je peux pas. En fait, je trouve que ça coupe dans la spontanéité de plein de choses. Et c'est en ça où je trouve ça très difficile. Moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. C'est très contraignant et je trouve que ça freine le champ des possibles, en fait, qu'on peut déjà, des fois, avoir les coups de tête, par exemple. Ce week-end, on part à tel endroit, juste tous les deux, quand on est en couple, ça c'est super, mais on peut plus faire ça quand on a des enfants. Donc je pense que c'est en ça où je trouve que ça bouleverse une vie. Et quand j'entends les gens dire « Oh, mais faites un enfant, ça change pas grand-chose », mais bah, si, ça chamboule complètement, quoi.
Depuis septembre, Aurélie ne vit plus avec son conjoint actuel. En dehors du regret maternel, c'est la vie de famille qu'elle ne supportait pas. Elle se sentait débordée et envahie par ce quotidien où elle regrettait sa tranquillité et sa liberté. Elle peut désormais se ressourcer, apprécier ces moments où elle est seule, où elle peut lire un bouquin sans être interrompue toutes les 15 minutes, et d'autres moments où elle est seule avec son amoureux grâce à la garde alternée de ses deux premiers. Laurence, quant à elle, ne peut pas échapper à ce quotidien. Elle a quand même son conjoint qui la soutient, qui s'occupe de leur enfant le matin et beaucoup le week-end, ou qui va le chercher à l'école.
Je pense que j'aurais pas la patience, en fait, de tenir une semaine. Parce que j'ai besoin, en fait, de moments de calme. J'ai besoin d'être toute seule. Ça, je sais que ce sera toujours comme ça. Je pourrai pas être mère à temps plein.
Aurélie nous raconte que plus ses enfants grandissent, et plus elle se sent à l'aise avec eux. Parce qu'ils gagnent en autonomie, et ça la soulage d'un grand poids.
Là, voilà, ils vont au parc, tout seuls, je sais qu'ils vont à côté, je leur fais confiance, ils connaissent le cadre, voilà, ça va. Mais les tout-petits, faut être en permanence aux aguets, ça c'est trop, en fait, j'y arrive, mais ça me prend énormément d'énergie. Et puis, ouais, là, ça y est, ils grandissent, je fais des trucs avec eux que je faisais pas avant, c'est-à-dire qu'on est passé à autre chose qu'aller au parc et faire du toboggan. Ça y est, on fait des sorties... D'un point de vue discussion, on peut commencer à discuter de certaines choses aussi, donc c'est pareil, on passe un cap qui est, je trouve, plus agréable que de faire semblant de jouer à la dinette. Bon, ça, c'est mignon, mais bon, c'est un peu chiant quand même. Je dirais qu'avec actuellement, avec le grand, qui a donc 12 ans, je pense qu'on est assez complices. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression de vivre avec lui. On a des points communs. On fait de l'escalade ensemble. Enfin, voilà, il est assez... J'ai l'impression qu'il me ressemble sur certains points.
Ce sont des moments qu'Aurélie apprécie parce qu'elle peut plus facilement créer du lien avec eux. Pour Laurence, c'est un peu différent, car son enfant est plus jeune. Mais elle nous a expliqué qu'elle ne cache pas totalement à son fils que parfois, c'est difficile pour elle. Que parfois, elle a besoin d'être sans lui et qu'il joue sans elle. Et d'une certaine manière, c'est ce qui lui a permis d'aller mieux.
Il y a des choses que j'apprécie plus de faire... Voilà, maintenant, il y a des moments où je me force encore à jouer avec lui, mais au final, il faut juste que je me force à me lancer dans le fait d'aller jouer avec lui, mais je me surprends à trouver ça agréable par moment. Voilà, faire un câlin le soir dans le lit, c'est devenu presque un rituel. C'est un moment qui est plutôt qui se passe plutôt bien. Ça s'est amélioré, on va dire, qu'au fur et à mesure ça s'est amélioré. on va retrouver chacun nos petites places. Et puis, je pense que de toute façon, ce qui était le plus important dans tout ça, c'était de libérer la parole. Donc je trouve que c'est plutôt bien, en fait, de rien lui avoir caché, parce qu'en fait, il s'est pas imaginé plein de choses. Et en fait, ça fait partie de son histoire, sans que ça prenne une place énorme dans sa vie d'enfant.
Le regret maternel s'accompagne bien souvent d'une dépression postpartum. Lors des Assises de la santé mentale à Paris, en septembre 2021, le secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet, a déclaré qu'entre 15 et 30% des mères sont touchées par cette pathologie. Comme nous l'expliquait Aurélie, c'est à partir des premiers mois qu'elle commence à déchanter, lorsque tout son esprit est centré sur le bébé. Et à chaque fois, c'est la même chose.
J'avais mis un mot sur ce que j'avais ressenti, dépression du postpartum, donc je savais que j'étais sensible à ça. Donc pour le troisième, j'étais aux aguets, en fait. J'étais prête, et quand j'ai senti que le baby blues commençait à durer un peu plus de 2 semaines et que je pleurais, je dis bon bah voilà, on y est quoi, c'est mon truc à moi. Il n'y a pas, j'accouche et après je déprime quoi.
Laurence, elle, a mis du temps avant de comprendre ce qui lui arrivait. Avec son conjoint, ils n'étaient pas proches de leur famille pour faire garder leur enfant, et ils étaient éloignés de tout.
La première année, on s'est totalement enfermés, probablement aussi parce que il y avait ma dépression. Mais en fait, on s'est retrouvés comme noyés par la situation.
Afin de mieux comprendre ce qui distingue la dépression du regret, nous avons interrogé Sophie Adriensen, autrice de la bande dessinée La Remplaçante. Entre ses 2 enfants, elle a vécu une dépression du postpartum qui a duré presque 3 ans. L'idée d'écrire cet ouvrage lui est venue à la maternité, lorsqu'elle accouchait du second, pour consoler celle qu'elle était à la naissance de son premier enfant, et éventuellement, pour aider les femmes qui pourraient se retrouver dans cette situation.
Et ça peut s'accompagner d'une dépression du postpartum, mais pour moi, ce sont 2 phénomènes vraiment différents. Dans ma dépression du postpartum, il n'y avait aucune place pour le regret. Je ne savais pas quoi faire dans ma nouvelle situation, mais d'aucune manière, je ne la regrettais. Le problème, c'était mon incapacité à m'adapter à la nouvelle situation.
Et comme le souligne Stéphanie Thomas, l'autrice de Mal de mer, le regret, il ne s'estompe pas.
Postpartum et le baby blues et tout ça, ça passe. Le regret maternel, tu vas demander à une mère qui regrettait à la naissance de son enfant d'être mère, et quand elle est grand-mère à 70 ans, le regret, il est le même. Ça passe pas, c'est irréversible. Elle est là, la différence.
Comme pour le regret maternel, on ne parle pas assez de la dépression postpartum, et on laisse les mères culpabiliser dans leur coin. Déjà parce qu'on continue encore aujourd'hui de parler d'instinct maternel, alors que ces femmes ne le ressentent pas, et ne le ressentiront probablement jamais. Ce qui, comme le rappelle Sophie Adriensen, peut être complètement dévastateur pour elles. Et ça l'a été pour Laurence.
J'ai fait la combinaison d'un regret maternel qui était tellement, au début, qui a pris tellement de place, parce que j'aurais voulu être la mère parfaite, j'aurais voulu que tout se passe bien, j'aurais voulu que, voilà, j'aurais voulu un allaitement parfait, j'aurais voulu que mon fils mange bien, ce qui n'était pas le cas, j'aurais voulu tout bien. Et en fait, tout ne s'est pas passé comme j'aurais voulu. Et donc, tous ces idéaux se sont écroulés. Donc, en fait, mon regret maternel a dû prendre encore plus d'ampleur, parce que, justement, je me disais, bah, tu vois, t'es vraiment pas capable de faire ça. C'est vraiment pas ce que t'es capable de faire. Tu y serais nettement mieux avec un autre parent que toi.
On pourrait se demander à présent, il vient d'où ce regret maternel? Est-ce que c'est parce que, en premier lieu, on n'en voulait pas de cet enfant, et on a fini par se laisser convaincre? Pourtant, c'est pas ce qui arrivait à Aurélie avec son premier enfant. Il était très désiré. Elle aimerait trouver les réponses, les cherche encore avec ses psychologues, et est allée jusqu'à remettre en question sa façon d'aimer les gens.
Est-ce que je suis capable d'aimer, finalement? Parce que c'est tout ça, après, qui fait que je me posais des questions, parce qu'on parle toujours d'amour maternel, et tu me disais, mais est-ce que j'en ai, ou est-ce que je suis complètement dénuée d'amour maternel, et du coup, je prends ça comme un travail? Voilà, je suis une maman, c'est mon job, et il faut que j'élève des enfants. On dit toujours que quand on a plusieurs enfants, l'amour se démultiplie. Moi, j'ai pas ressenti ça, du tout. J'ai eu l'impression, au contraire, de devoir me diviser encore plus pour être un peu disponible pour chacun.
Stéphanie Thomas explique en Mal de mer que la plupart du temps, dans les récits que l'on peut lire sur le sujet, ou ce que sa gynécologue a pu lui raconter, on retrouve chez ces femmes qui regrettent d'être devenues mères des carences affectives dans leur enfance. Ce n'est pas le cas pour Aurélie, mais pour Laurence, c'est comme si elle avait déjà tout donné pour sa mère. Petite, elle s'inquiétait pour elle en permanence, et aujourd'hui, elle n'a plus l'énergie de faire la même chose.
J'ai vécu à partir de l'âge de 5 ans avec des parents qui passaient leur temps à s'engueuler, et une mère ultra dépressive. Donc en fait, j'ai une bonne partie de mon enfance, j'ai, on va dire, épaulé ma mère, j'ai pris soin d'elle, enfin j'ai essayé en tout cas, j'ai essayé de la protéger d'un père, on va dire, particulièrement virulent. Donc en fait, on va dire que j'ai un peu vécu, j'ai un peu pris soin d'elle comme si j'aurais pris un peu soin d'un enfant. Et peut-être que voilà, peut-être que ça vient de là aussi, le fait que ben à l'époque j'ai pas pris plaisir à faire ça et que ça a été pour moi. Enfin, je l'ai fait pour la sauver et qu'en fait j'avais pas forcément envie de revivre ça.
Laurence a longuement réfléchi aux différentes configurations qui pouvaient entourer le regret d'être devenu parent. Les choix, conscients ou non, qui peuvent s'offrir à eux pour s'enfuir de leur quotidien.
On trouve tous des solutions différentes en fait. De toute façon, quand on est vraiment dans un regret énorme, il y a un moment où on se pose la question de qui des deux va rester. Est-ce que c'est l'enfant qui reste ou est-ce que c'est nous ? Certains se disent bah c'est l'enfant qui part. Et donc dans ces cas-là, bah, c'est de la maltraitance au plus. Et puis, si c'est nous, c'est soit une séparation, un divorce. Soit on trouve un travail où on va très loin, comme ça on rentre que très rarement. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent, bah, c'est une nourrice qui vient prendre le relais. Et puis, on laisse l'enfant aux grands-parents pour prendre le relais. Et puis, la dernière solution, c'est le suicide.
C'était ça la solution pour elle, pour que ça s'arrête. Pour protéger son enfant, parce qu'elle se demandait parfois jusqu'où elle serait capable d'aller. Elle a fini par se dire que celui qui était en trop, ce n'était pas lui, mais elle. Et jusqu'alors, ses parents ne prenaient pas au sérieux les mots qui la faisaient souffrir.
Je pense qu'ils me disaient que c'était une passerette, que j'étais fatiguée, que ceci, que cela. Et en fait, pour être entendue, il aura fallu que j'en passe par une tentative de suicide. Et en fait, c'est à partir de là que ma famille a vraiment pris conscience de la gravité de la situation, de l'ampleur en fait qu'avait pris ce regret maternel en fait dans ma vie. Parce que voilà, en fait, je voyais plus d'issue et que de toute façon, mon regret, il était tellement important qu'il valait mieux en fait que je disparaisse et qu'il se trouve une autre mère. Donc voilà, j'en étais arrivée à ce point-là.
Il est grand temps de lever le voile sur le regret maternel. Parce que ces femmes, elles ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas toutes seules. Ou au moins, elles ont besoin de la libérer, cette parole. Parce que c'est salvateur, en fait, de pouvoir partager ce truc-là. Comme l'expliquait Stéphanie Thomas, ce n'est pas quelque chose qui disparaît, c'est irréversible. Et si on veut survivre face à ça, ce n'est pas possible de le garder pour soi.
Et donc j'ai tapé sur Google « Je ne supporte plus mes enfants ». Et là j'ai vu plein de choses sur le burn-out parental, et là j'ai commencé à me dire « Ah mais en fait ça existe quoi, c'est pas moi qui suis tordue, ou il y a des gens comme moi, des mamans comme moi qui sont pas à l'aise avec ce rôle-là quoi ». Parce que j'en parle avec pas du tout de pincettes et pas du tout de tabou. Et ça m'est déjà arrivé au travail ou des amis ou de me dire tu peux pas dire ça. Bah si, je peux dire que je suis pas heureuse en tant que maman et que si j'avais le choix, je referais pas d'enfant. Je peux le dire. Mes enfants sont pas là. C'est moi, je parle avec des adultes, donc c'est pas quelque chose que je dois cacher, c'est pas un secret.
Tout comme Aurélie, Laurence ne s'est pas privée d'en parler autour d'elle. Et peu importe ce que les gens pouvaient en penser, elle se disait qu'ils ne savaient pas ce que c'était, et qu'ils n'avaient pas à la juger pour ça. Et pour Laurence, c'est crucial de témoigner.
Et j'ai commencé assez rapidement à en parler, même autour de moi, même à mon travail. J'ai assez rapidement libéré ma parole, en fait. Parce que justement, de nouveau, au bout d'un an, on commence à te dire, tu vas bientôt faire le deuxième, hein. Et du coup, voilà, pour calmer les choses directement, j'ai dit ce que je ressentais et ce qui était pour moi la parentalité, et que je, voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait pas. Et à force d'en parler, et ben en fait, on arrive de plus en plus à trouver des mots adaptés, des mots justes. Je recherchais pas qu'on acquiesce ou qu'on dénigre, en fait, c'était juste que je voulais en parler pour que les gens sachent que ça existe et qu'ils sont susceptibles de voir ça autour d'eux encore, et qu'ils puissent aider en fait ces personnes-là. Et puis voilà, aux jeunes filles, jeunes femmes qui n'avaient pas encore d'enfants, qu'elles sachent que voilà, ça pouvait exister, et que si un jour elles ont des enfants, même si elles les désirent, que si elles vivent ça, et ben en fait se dire, ah bah oui, c'est vrai, j'ai connu quelqu'un qui a ressenti ça, donc je sais qu'il, enfin, je vais pouvoir en parler plus facilement parce que je sais que je suis pas toute seule.
Mais pour cela, le chemin est encore long et sinueux. En 2021, rien que pour la dépression postpartum, 78% des parents n'en avaient jamais entendu parler. Alors oui, c'est énorme, mais il faut savoir que le tabou autour de la dépression postpartum est tout juste en train de se lever. Ce n'est par exemple que depuis le 1er juillet 2022 que l'État a mis en place un accompagnement des jeunes mères avec des entretiens dès la naissance, puis entre la 4e et la 8e semaine après l'accouchement. Donc ce n'est que depuis cet été que le gouvernement s'assure de l'état de santé de ces femmes qui sont devenues mères. À la réception de sa bande dessinée, Sophie Adriansen raconte qu'elle ne savait pas que la dépression postpartum pouvait toucher autant de femmes. Beaucoup de mamans, et de tout âge, se sont retrouvées dans son récit.
Et la surprise de l'accueil de cette bande dessinée, c'est le fait que le monde médical s'en empare, que les gynécologues ou les sages-femmes s'en servent en consultation, que les maternités les proposent en postpartum aux jeunes mamans, qu'il y a un hôpital à Milan qui l'a inscrit donc dans la version italienne au programme d'études de 3e année pour les sages-femmes, dans un module sur le bien-être mental de la jeune mère. Donc ça, c'est absolument inattendu pour moi.
Bien qu'il soit réjouissant, c'est un petit pas, parce que les secrets qui entourent la grossesse et la maternité, ils sont encore sacrément nombreux. Et parfois, ils sont même entretenus par le personnel médical, comme a pu le réaliser Aurélie lorsqu'elle était enceinte de son dernier.
Tu visites la maternité avant d'aller quand tu es toute grosse, donc on est plusieurs couples, plein de grosses et de messieurs qui suivent leurs femmes comme ça. Et puis, les sages-femmes nous montrent les chambres, les salles d'accouchement, tout ça. Et le jour de cette visite, il y avait une jeune femme qui était enceinte de son premier enfant, une primipare, comme on dit. Elle demande à la sage-femme, mais les saignements après l'accouchement, ça dure combien de temps? Et la sage-femme qui lui répond, oh, ça dure une bonne semaine. Et là, en fait, j'ai éclaté de rire. Et je lui ai dit, mais vous vous moquez du monde, en fait. Et j'ai regardé l'autre nana, je dis, non, c'est au moins 3 semaines. Je dis, tu vas voir, c'est pas des règles, hein, c'est autre chose, quoi. Et la sage-femme m'a regardé en me disant, mais chut, faut pas le dire. Je dis, mais si! Et en fait, là, j'étais choquée. Je dis, mais mince, c'est-à-dire que même les sages-femmes, le corps médical à qui on fait confiance parce qu'elles s'occupent de nous, elles nous maternent vachement, elles sont hyper attentives à notre souffrance et tout ça quand on accouche. Et je me dis, mais merde, c'est pas vrai, quoi. Faut dire ce qui se passe. Ça éviterait les gros baby blues et les dépressions si on ne cachait pas la réalité que c'est difficile, que ça fait mal, qu'après on ressemble à un gros flamby, que... C'est des choses qu'il faut dire, quoi, aux femmes. Faut arrêter de leur cacher la vérité.
Arrêter de cacher la vérité, oui, cela va sans dire. Mais il faudrait aller plus loin. Ces femmes qui regrettent d'être devenues mères perdraient tellement en culpabilité si, collectivement, il était enfin admis qu'elles ont le droit de ressentir ça. Qu'elles ont le droit de regretter ce rôle. Et que ça ne fait pas d'elles de mauvaises mères pour autant. Comme le pointait Sophie Adriansen, la maternité est tout sauf un long fleuve tranquille. Parce que déjà, quand tu deviens mère, tu peux plus ne vivre que pour toi. Et puis elle n'est pas innée, cette paternité. Elle n'est pas non plus la suite logique de notre accomplissement, à nous les femmes. Une fois que tout ça aura été acquis collectivement, peut-être que cette décision, nous pourrons enfin la prendre de manière éclairée.
Un grand merci à Aurélie et Laurence pour nous avoir partagé leur histoire et livré de leur intime. À Stéphanie Thomas et Sophie Adriansen pour nous avoir éclairé sur le sujet. À Quentin Baudot ou Rosae pour l'habillage sonore et ses compositions.
Progrès maternel, un documentaire réalisé par Blue Henry Wall et Roxane Machecourt.
Pourquoi personne ne tient compte de mon avis, là? Je suis pas juste un utérus, quoi, merde!